Bonjour et bienvenue à Regards Croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Oui, bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Oui, donc tout début de semaine et une nouvelle qui commence.
Bonne semaine à toutes et à tous.
On est bien là avec de nouveaux sujets, de nouveaux invités bien sûr.
Oui, alors, vas-y.
En première partie d'émission, on reçoit notre chroniqueuse de bénévolat, Marie-Danielle Boucher, qui va nous parler de... Le sujet d'aujourd'hui est, est-ce que j'ai le temps de faire du bénévolat ?
Très bonne question.
Les détails un peu plus tard. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour la deuxième partie de l'émission ?
Avec le conteur, danseur et musicien Franck Sylvestre, qui est reconnu à travers le Québec pour publier et raconter des contes pour enfants depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, eh bien, il aborde un nouveau chapitre grand public avec sa pièce 1734. Et là... Il se livre, dit-il, à cœur et corps ouvert. Alors, on en parle avec lui dans un instant, puisque la pièce va se jouer aussi dans le... On en parle aussi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs.
Oui, on est en plein là-dedans, comme on dit.
Oui, oui, encore toute la semaine.
Toute
donc,
la semaine du mois de l'histoire des Noirs.
Il faut s'en souvenir au fil des années, bien sûr.
Ah,
tout
oui.
au long de l'année, bien
voilà.
sûr. Donc,
on part en musique.
Eh bien, volontiers, Fulgence, qu'est-ce que tu nous proposes ?
C'est la tradition, Stéphane Eicher. Si tu veux que je chante.
Allez.
Je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. De relancer les comment, les pourquoi qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là, pas comme sec est mon cœur. Comme sec sans mes bras. Si tu veux que je chante, si tu veux que je chante. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras.
Stéphane Eicher, si tu veux que je chante.
Alors je disais tout à l'heure, on a éteint trop tôt le micro, je lui disais oui Stéphane, je veux bien que tu chantes.
Ah ouais. Pas Fulgence, chante Stéphane. Alors on a déjà notre chroniqueuse de bénévolat au téléphone, Marie-Danielle Boucher, qui va nous parler un peu de ce qui concerne le bénévolat. Est-ce que j'ai le temps de faire du bénévolat ? Bonjour Marie-Danielle.
Bonjour Marie-Danielle.
Bonjour Arlette, bonjour Fulgence.
Très heureux de te réentendre pour une deuxième chronique.
Et moi aussi.
Voilà. Alors, lors de ton premier passage, tu nous as mentionné qu'il y avait une augmentation de l'intérêt des gens pour le bénévolat. C'est vrai, avec la pandémie, bien sûr, on a plus de temps pour en faire, mais est-ce que c'est parce qu'on a plus de temps qu'on se lance dans le bénévolat ?
Mais ça même, je m'excuse, mais même sans la pandémie, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que j'ai le temps de faire du bénévolat?
Oui.
Pandémie ou pas pandémie, voilà. Ça rentre dans le cadre du questionnement
naturel.
Et j'ai hâte d'entendre Marie-Danielle là-dessus.
Qui va nous éclaircir certaines choses, voilà.
Oui, parce qu'effectivement, comme Arlette le mentionnait, c'est une question qu'on se pose toujours. Là. Est-ce que j'ai le temps de faire du bénévolat? On a envie de contribuer à une cause, mais bon, on sait qu'on vit à toute vitesse nos vies. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est une personne qui a envie de faire une différence, de contribuer, de s'impliquer dans sa communauté, mais qu'on n'a pas beaucoup de temps? Il y a les gens à la retraite. Tu sais, souvent, on s'imagine que pour faire du bénévolat, il faut être à la retraite.
Oui, c'est ça.
Mais là, les gens qui arrivent à la retraite, ce sont nos baby-boomers. Alors, on peut penser que ces baby-boomers-là vont prendre la place de leurs propres aînés, ceux de la génération qui ont consacré vraiment leurs loisirs et leur temps avec de nombreuses heures de bénévolat dans l'action bénévole. Ça a vraiment marqué toute une époque du bénévolat au Québec, ça. Mais les baby-boomers qui arrivent, théoriquement, ils ont plus de temps, mais oh là là, attention, oui. Ils sont très actifs. Ils oui. prennent soin de leurs petits-enfants, ils vont s'occuper de leurs parents âgés, et ils ont leur propre agenda de loisirs et de voyages. Là. Ça fait des années là, qu'ils planifient leur retraite, alors ils ont une wish list assez longue. Donc, c'est pas vrai que quand on est retraité, on a plus de temps à investir dans le bénévolat que nous qui sommes actifs sur le marché de l'emploi ou ceux qui font d'une famille ou quand on entreprend des études. Puis, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce qu'il y a différentes façons de faire du bénévolat. J'ai envie de dire aux gens que le bénévolat est possible pour tous, même si on dispose de pas beaucoup de temps. Parce que, de façon générale, quand on imagine le bénévolat, c'est vraiment le bénévolat régulier, de manière hebdomadaire, toujours avec le même organisme, un 3-4 heures bien investi par semaine, là, ce qui représente comme un quart de travail. Mais il y a plein d'autres formes de bénévolat. Il y a le bénévolat ponctuel. Chez nous, Accès bénévolat, ça se présente par une infolettre que les aspirants bénévoles vont recevoir une fois par semaine.
Oui.
Puis là, ils vont pouvoir regarder en consultant l'infolettre si leur horaire s'adapte
à ce qu'un organisme.
Tu sais, quand les organismes ont besoin de bénévoles en extra, c'est souvent quand il y a des fêtes saisonnières, là, Noël, Halloween, c'est quand il y a des grosses corvées aussi, comme dans le temps des magasins partage du temps des fêtes,
oui.
ou des événements comme le Tour de l'île en vélo. Tour de l'île en vélo, ils ont besoin de 600 bénévoles.
Ah oui, ils en ont toujours besoin. Ils en ont toujours besoin, oui.
Mais Vélo-Québec, ils n'ont pas 600 bénévoles qui viennent faire un 3-4 heures chaque semaine dans leur locaux. Tu sais, c'est vraiment du bénévolat en extra. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on sert des bénévoles qui ne peuvent pas s'engager à long terme, mais qui ont quand même du temps et un désir de participer à leur communauté. Il y a aussi des plateformes en ligne, comme celle de Simplyk. Simplyk, ça s'écrit S-I-M-P-L-Y-K. On est un petit peu créatif.
Oui, Simplyk.
Oui, c'est ça. Simplyk, ça permet aux gens de consulter les besoins des organismes. Donc, ce week-end, je suis disponible et je vais voir sur Simplyk. Je vois que tel organisme a besoin de bénévoles. J'appelle, je donne mon nom puis je me présente sur les lieux la journée du bénévolat. Il n'y a pas de formation à faire. C'est du bénévolat qui se consomme rapidement, si on pourrait dire.
Oui, qu'on peut faire sans prévoir de le faire exactement tous les jours ou toutes les semaines.
Exactement.
On peut le faire une fois de temps en temps quand on a le moment.
On a un trou dans notre horaire, on a envie de le remplir, ben on va là, puis c'est vite fait. Il y a aussi des bénévolats qui se font très rapidement, comme je pense à un projet dans le quartier du Vieux-Rosemont, c'est un projet qui s'appelle la Pélicantine, une distribution de boîtes à lunch pour des personnes vulnérables ou en voie de le devenir.
Ah oui.
Les lunchs sont déjà préparés par d'autres bénévoles et les bénévoles de la Pélicantine se donnent rendez-vous au chalet du parc Pélican, puis en l'espace de 45 minutes, les lunchs sont distribués. Zoup, je repars faire ce que j'avais à faire avant.
D'accord. Je dis bravo à ces personnes qui s'impliquent, sincèrement.
C'est bien qu'il y ait des choix comme ça, parce que ça permet de, quand t'es pas sûr d'avoir du temps, puis ça te fait peur, tu préfères dire non plutôt que de pas pouvoir être là tout le temps. Ouais. Au moins, quand c'est des moments comme ça, c'est bien.
Oui, comme elle l'a dit de manière ponctuelle, quelquefois, profiter un peu de sa petite fin de semaine, quelques heures là-bas, voilà.
Les gens veulent tenir leur engagement. Tu sais, on fait du bénévolat pour contribuer, on veut pas nuire, là, puis on veut se sentir bien aussi en le faisant. Fait que si je suis tout le temps obligée de dire, ben, je m'excuse, cette semaine, je peux pas y aller, je m'excuse, là, j'ai un contre-temps.
Faut pas que ça devienne une contrainte.
Oui.
C'est ça. Mm-hmm. Alors, puis il y a d'autres choses aussi. Il y a, par exemple, je sais pas, vous êtes sur le plateau, vous devez connaître le restaurant Le Robin des Bois.
Oui.
Oui, oui.
Alors, eux, la mission, c'est de vaincre la solitude, l'isolement social et la pauvreté. Ils ont une équipe régulière et ils ont une équipe de bénévoles. Puis les bénévoles, c'est encore très facile. Les gens vont sur leur site, s'inscrivent comme bénévoles, puis après ça, vont voir le calendrier, ils voient où il y a des besoins bénévoles, puis ils peuvent mettre leur nom s'ils ont une disponibilité, au moment où ça leur convient le mieux.
Donc ça aussi, c'est une bonne chose.
Très facile.
Oui.
C'est bien de le dire et de l'annoncer, parce que pour ceux qui n'oseraient pas le demander, au moins, comme ça, c'est fait.
Ben, pour ceux qui ne veulent pas s'embarquer dans une démarche, qui n'ont pas la disponibilité pour s'embarquer dans une démarche de bénévolat à long terme avec un même organisme, il y a plein d'autres opportunités. Il y a les corvées comme les entrepôts du magasin des petits frères des pauvres, des fois, quand ils font le transfert du linge d'hiver au linge d'été, ben, ils ont besoin de bras en extra pour faire les boîtes, pour bouger tout ça. Donc, c'est là que quand on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on a un désir, ben, quand on est au fait de ces opportunités-là, on peut participer à notre convenance.
Oui, puis
faire autour de chez soi aussi des gens qui manquent de quelque chose et pouvoir faire des dons de vêtements, de nourriture, de choses comme ça.
Oui, tout à fait. Puis il y a aussi toutes les plateformes des réseaux sociaux. Il y a des groupes d'entraide qui sont organisés pendant le coronavirus. Donc, sans nécessairement devoir passer par un organisme, c'est sûr que, il n'y a pas d'encadrement comme tel.
Non, c'est pas si encadré comme chez Accès Bénévolat, voilà.
C'est plus dans le domaine de l'entraide, de l'aide directe de personne à personne. Là.
Oui.
Donc, il y a ça aussi qui s'organise, puis c'est très pratique pour les gens qui disposent de peu de temps et d'un grand cœur.
Marie-Danielle, merci beaucoup. Oui, on va avec la petite pause musicale. Avant de terminer avec toi, on va s'amuser un peu avec Patrick Watson.
Je l'adore.
Oh, Mélodie noire.
Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You are my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. Sweetest melody I've never sung. La 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 la
I've got a hole the size of your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've never sung. You are my island of love, my limited rescue. You are the breeze, the song that carries me. You are the sweetest melody I've ever sung.
Patrick Watson, Mélodie Noire. Voilà, on est encore avec notre chroniqueuse de bénévolat, Marie-Danielle Boucher. Avant de lui dire merci et se retrouver prochainement, dans la deuxième set, peut-être rapidement, elle va nous parler, elle va nous proposer comment un bénévolat qui s'adapte bien à un horaire chargé, avant de lui dire merci et de nous quitter. Oui. Marie-Danielle.
Tout à fait. Je voulais vous parler, c'est ça, d'un bénévolat qui prend environ une heure ou deux par semaine et qui fait vraiment une très grande différence.
Oui.
Vous savez, on a parlé dernièrement, ben en fait, c'était les journées de la persévérance scolaire du 15 ou 19 février.
Oui.
Et nous, on a plusieurs organismes, des beaux organismes, qui cherchent justement des bénévoles pour aider des jeunes à faire leurs devoirs. Et
ah ça, oui,
selon
vrai.
Les organismes, ça représente environ une heure ou deux par semaine.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui rentre très bien dans un horaire chargé. Puis les critères pour devenir bénévole, ben ça varie d'un organisme à un autre, mais il faut faire la vérification des antécédents judiciaires, puis après ça, tout ce qu'on demande, c'est d'aimer l'humain, d'aimer l'enfant, puis d'avoir le goût de lui montrer à apprendre. Donc, c'est vraiment un bénévolat qui est à la portée de tout le monde, puis qui peut faire une grande différence dans la vie d'un jeune.
Oui,
bien sûr.
Donc, c'est ça que je voulais dire, là, comme pour vous donner un autre exemple, là, de bénévolat qui fait une grande différence, mais qui ne demande pas beaucoup de temps. Puis il y a une étude, je vais terminer là-dessus, il y a une étude de la Psychological Science de 2012 qui a montré que la satisfaction de donner du temps aux autres, ça soulagerait notre sentiment angoissant de manquer de temps, parce que ça modifie, faire du bénévolat modifie notre perception du temps. Donc, consacrer quelques heures aux personnes qui en ont besoin nous donne l'impression d'avoir plus de temps dans nos vies. C'est pas magnifique?
Ben si,
donc,
c'est vrai.
En conclusion, si vous avez envie de faire du bénévolat et que vous disposez de peu de temps, boudez pas votre plaisir.
Ah oui.
C'est possible.
Ah oui, ah ouais. Oui, puis c'est vrai, ça doit modifier la chimie du cerveau qui se dit, ben, voilà, qui ne voit plus la même vitesse de travailler.
Ça.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, Marie-Danielle.
Donc, ne boudons pas notre plaisir et allons bénévoler.
J'aime ça, bénévoler. Je ne vais plus dire faire du bénévolat, mais bénévoler. Merci beaucoup, Marie-Danielle Boucher, responsable d'orientation et formation des bénévoles chez Accès Bénévolat. Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir à tous les deux. À
bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir. Alors, nous, on va contrôler. Oui,
qu'est-ce que tu voulais revenir un petit peu sur le sport?
Oui, parce que les deux finales ont eu lieu cette fin de semaine.
Mais tu parles du tennis.
Je parle du tennis.
Alors, tu as vu pour le football quand même que Paris Saint-Germain s'est fait ramasser après par il a joué contre une autre ville de France.
C'est le championnat français.
Oui, oui.
Oui, bon, ça
mais
c'est autre chose.
Ils ont perdu 2-0. Comme quoi, après je pars du principe qu'après une très belle adrénaline qui nous monte haut, il y a comme une chute. Allez, Fulgence, vas-y, parle-nous de tennis.
On va parler de tennis maintenant. On va commencer par les dames. Oui, la jeune Naomi Osaka,
oui.
Une de mes préférées d'ailleurs, elle a battu la grande Serena Williams, de 39 ans, en demi-finale pour se rendre en finale et rencontrer l'Américaine. Donc là, c'est fait, ça a été fait. En fin de semaine, c'est son quatrième Grand Chelem. Oui.
Et elle a gagné.
Elle a gagné.
Bravo.
Oui, oui, elle devient maintenant la patronne du circuit féminin, quoi. Si Serena ne peut plus à 39 ans, est-ce qu'elle va revenir, Serena? On ne sait pas. Est-ce qu'elle va se retirer? C'est la question que tout le monde pose maintenant. Donc ça s'est passé.
Elle seule a la réponse.
Ouais, on saura. Elle était très triste. J'ai vu un peu la conférence de presse là, après le match. C'était pas vraiment ça, quoi. Ils lui ont posé une question si elle se retire ou pas. Elle s'est levée, elle a pris sa bouteille d'eau et puis elle est partie, quoi.
Ouais, les journalistes peut-être ont manqué de tact aussi là-dessus.
C'est possible. Elle était très en émotion.
Oui.
Ouais. Alors, la jeune Naomi Osaka a battu l'autre jeune Osaka, la japonaise. Bon, ouais. Voilà, a battu l'américaine Jennifer Brady 6-4, 6-3. Voilà, pour la première fois de sa carrière à ce niveau, l'américaine a craqué en fin de premier set avant de voir l'ouragan d'Osaka déferler. Mais c'est vrai, là. La petite Osaka, depuis ses 18 ans, 20 ans, elle a 22 ou 23 ans maintenant, si je ne me trompe pas, à cet âge-là, elle me fait penser au début de la famille des filles, des sœurs Serena. C'est comme ça qu'elles étaient. Elles cassaient tout sur les passages. Et c'est ce que la petite Osaka fait actuellement.
Oui, seulement après, quand il faut lâcher l'affaire pour laisser la place à ceux qui montent, c'est toujours difficile. Que ce soit en sport, dans n'importe quel travail et tout, c'est toujours difficile quand on se sent encore prêt à faire plein de choses, aller.
Mais c'est vrai. Je me suis dit que peut-être que si elle avait gagné ce tournoi, ce Grand Chelem, elle allait mettre fin à sa carrière, Serena. Mais ça n'a pas été le cas.
Elle serait partie peut-être la tête encore plus haute, mais elle peut être fière de tout ce qu'elle a fait. De toute façon, elle a un parcours absolument fou.
Ouais, son parcours, je ne sais pas qui va battre son record, là. Je ne sais pas.
C'est extraordinaire.
Alors, on dit bravo à cette jeune fille, là, qui on appelle maintenant la machine à gagner.
Mais c'est les journalistes, ils ont le don pour donner des noms qui pèsent lourd sur les épaules. Elle a gagné cette fois, c'est bien, tant mieux. On lui souhaite le meilleur pour qu'elle continue. C'est aussi un être humain, donc elle fera ce qu'elle pourra dans la mesure de ses moyens.
La machine a gagné,
ça fait lourd.
Oui, c'est comme ça, les gens l'appellent, mais les commentateurs l'appellent maintenant la machine a gagné.
Oui, j'ai compris. Oui. C'était les commentateurs.
Donc, elle était troisième mondiale, elle va devenir maintenant la deuxième mondiale.
D'accord.
Avec ce... Alors,
bravo à elle. Hein.
Mon ami de la Serbie, Djokovic. Lui aussi, c'est son neuvième titre à Melbourne. Arlette.
Ben bravo.
C'est le seul qui a gagné 9 fois là-bas. Son neuvième titre. Alors, il a fait. Et moi, je me suis dit, bon, ben, de toute façon, je ne m'attendais pas. Je me rappelle bien d'une conversation qu'on a eue ici, quelqu'un qui disait. Ah, attention à Medvedev, le russe. Non, parce que l'autre avait dit qu'il avait mal, un peu des douleurs de dos, quoi.
Oui.
Non, ça n'a pas été le cas, il était très performant. 7-5-6-2-6-2, c'est parti. Le numéro 1 mondial, Djokovic. Novak, voilà, c'est une de mes gars. Les grandes, les grosses têtes, là, Nadal, Roger Federer, Djokovic, Novak, je les aime tous.
Lui aussi arrivera un moment où il va falloir qu'il se retire, peut-être. Pas encore.
Non, il est encore derrière les deux autres. Hein. Les deux autres ont 20 comme ça, leur palmarès. Lui, il a 18 maintenant, Grand Chelem. Nadal et Roger Federer ont 20 chacun. Il veut les rattraper.
Je comprends.
Avant de laisser les autres aussi prendre
La relève.
Il a dit à son adversaire de la fin de semaine, attends ce que je rattrape les autres avant de te laisser la place. Ça m'a fait sourire. Quoi. Alors, c'est les deux gagnants. Ouais. Novak Djokovic du côté des hommes et puis bon, Naomi du côté des femmes. Voilà. On va en musique.
Oui.
Avec Hervé, Monde Meilleur.
Mais justement, tiens.
Voilà.
Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps que j'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagner. Ça, je le sais. Que le temps, c'est de l'argent. Que je passe mon temps à le perdre. Oh, oh, oh. Là, je te sens plus sûr de moi. Oh, oh, oh. Quand je te sens plus sûr de toi.
si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur.
On fait le voyage en solitaire. Ça fait bien longtemps qu'on fait plus la paix. J'ai pas de crédit pour m'épargner. Ça, je le sais. Que je finis sur les temps. Un sourire aux lèvres. Oh, là, je te sens plus sûr de moi. Oh, quand je te sens plus sûr de toi.
Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Oh, 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 je te sens plus sûr de moi. Oh, 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 quand je te sens plus sûr de toi. Oh, 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 je te sens plus sûr de moi. Si on peut rêver d'un monde meilleur, j'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Oh, 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 je te sens plus sûr de moi.
Alors restez avec nous parce que dans la prochaine demi-heure, nous serons avec Franck Sylvestre, conteur, danseur, musicien. Et avec lui, on va parler théâtre avec la pièce 1734 dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors restez avec nous dans un instant. Nous sommes avec Franck Sylvestre.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans prévenir, faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes.
Alors, on vient d'entendre Claude Nougaro qui nous chantait la merveilleuse chanson Armstrong.
Là, je vous dis, puis, je vous dis avant qu'elle ne continue, là, si vous étiez ici avec nous en studio, je viens d'assister à un acapella de la part de Arlette Farah. Avec Claude Nougaro, en même temps, je la regardais, je faisais semblant d'écrire, mais je l'écoutais chanter.
Heureusement qu'il y avait Fulgence qui écoutait. Bon, ah, c'est pas grave. Là, maintenant, on est avec Franck Sylvestre, conteur, danseur, musicien, et on va parler de la pièce 1734. Donc, Franck Sylvestre, bonjour.
Bonjour, Arlette.
Bonjour, Franck Sylvestre.
Et bonjour, Fulgence.
Alors, on a très, très hâte d'en parler, de cette pièce, parce que Franck, en commençant par le théâtre, en étant baigné dans la musique, d'un coup, le conte rentre dans ta vie et là, qu'est-ce qui se passe?
Et là, c'est la pièce manquante, disons.
Voilà.
C'est la pièce.
C'est,
oui,
c'est ce qu'il fallait rajouter.
Oui, comme pour réunir le tout, comme pour faire le lien, pour me trouver comme une plateforme, en fait, pour exprimer tout ce que j'avais exploré avant. C'était comme la forme la plus adaptée à, pour être en pour être porteur de tous les outils que j'avais ramassés sur mon parcours. Je trouvais que c'était quelque chose qui était très adapté à ma personnalité, à ce que j'étais. Je venais du théâtre le fait de jouer, d'être en bande, c'est très bien d'être l'espèce vraiment dans le concept, dans la représentation théâtrale avec le quatrième mur.
Oui.
C'est très bien, mais quand je me suis aperçu qu'on pouvait créer un espace plus large en étant vraiment en contact direct avec les gens, en étant plus comme quelque chose de, comment dire, plus proche d'une tradition d'une époque où les gens étaient ensemble, je me trouvais à ma place, vraiment à ma place. Alors oui, c'était un flash, c'était une rencontre avec l'art de la parole. Ça regroupait aussi ma position comme je suis originaire de la Martinique, mais juste oui, originaire, c'est mes parents qui viennent de là, moi je suis né à Paris, et puis là, dans cette position qu'on a tous les négropolitains, comme on les appelle, hein, ceux qui sont ailleurs,
voilà,
qui sont étrangers partout,
oui,
voilà, partout sur la Terre, je trouvais que c'était comme quelque chose, un petit wagon, un petit train qui me permettrait de circuler plus librement dans toutes ces cultures, voilà, qui me façonne maintenant aujourd'hui.
Alors, je crois savoir que cette pièce, 1734, c'est donc ce conte qui vient te troubler, qui vient te chercher dans tes racines, qui vient te faire penser, ouais, au monde autrement.
Ouais.
Et comme il y a un petit peu des trous dans cette histoire, comme elle est racontée, tu as décidé d'en faire une pièce de théâtre, si je ne me trompe, et que tu as dans lequel tu as rajouté de l'histoire.
En fait, j'ai été invité en 2009 à participer à cette pièce qui avait été montée au Mai par Ayana, mise en scène par Peter Batakliev. Alors j'ai tenu ce rôle du bourreau de Montréal en 1734 qui était esclave africain transité en Martinique et puis qui avait été cherché par le roi, par l'intendant du roi de France, parce qu'il avait commis un crime. Mais on ne sait pas trop c'est quoi, mais il était condamné à mort. Alors on lui proposait ce marché d'être devenir bourreau.
À ce moment-là, c'était facile de condamner aussi.
Oui, ça ne fallait pas grand-chose. Il fallait pas grand-chose. Hein. Oui. Apparemment, il a fait c'est pas grand-chose. Là. Il était condamné. Et il a accepté. Il a accepté de devenir bourreau en Nouvelle-France, d'être bourreau de Montréal, qui desservait Montréal et Québec. Alors il a fait l'aller-retour pour les exécutions pendant 10 ans. Et on l'a retrouvé, la dernière trace qu'on a de lui, c'est qu'il est dans un asile et devenu fou. 10 ans après, à Québec,
y a
après
de quoi
l'exécution de cette... Comment ?
Mais je dis, il y a de quoi,
oui,
c'est un peu, parce que quand on est dans cette histoire-là, en tout cas, moi, ce que ça fait vibrer chez moi, c'est que toute personne qui a subi des choses horribles dans son enfance peut devenir, après, celui qui fait mal à l'autre. Et là, il passe de l'esclavage à devenir quand même...
De l'esclave au bourreau, quoi.
De l'esclave au bourreau, c'est vraiment l'opposé l'un de l'autre.
Hein. C'est un drôle de destin, c'est un destin tragique, mais c'est une réalité. C'est ça qui m'a impressionné surtout, c'est que c'est une réalité. Le bourreau de Montréal, en 1734, était un Africain. Et ça joue sur plusieurs niveaux. Donc oui, c'est une tragédie, mais en même temps, c'est comme... Les premiers fonctionnaires.
Oui, il était au solde du roi de France, du responsable de l'envoyé spécial de la France ici, ouais. Du gouverneur.
Oui, c'est ça, c'est le représentant, il exécute les ordres de la cour. Mm-hmm. Oui, c'est ce. Et puis en même temps, bon, ça a été un destin tragique quand j'ai joué cette pièce où j'interprétais ce rôle. Alors là, on rencontre aussi Marie-Joseph Angélique. Qui est cette esclave africaine qui vivait à Montréal aussi, elle a même temps, ils se sont croisés. Alors, les deux seuls Africains de Montréal, une accusée et l'autre bourreau, et puis l'un doit tuer l'autre.
Mon Dieu, mais comment veux-tu que ça ne te rende pas fou ?
Mais même moi, en le jouant, je me sentais comme dans une espèce d'endroit où les comédiens ne doivent jamais aller quelque part. C'est que le rôle rentre dans ta vie. J'étais comme pollué par cette énergie dans la journée. Et une veille, si je devais jouer ça pendant X années, là, et je serais comme celui de Tarzan, le mec qui a joué Tarzan, qui dans la vraie vie. Il y a quelque chose qui était vraiment envahissant. Envahissant, mais... parce que ça rejoint tellement une réalité. On se prenait, la frontière est devenue de plus en plus mince entre cette. D'ailleurs, ça m'a. Pendant cette période-là, j'ai passé une audition dans la journée pour un spectacle pour enfants. J'étais vraiment pas là.
Il y a dû, avoir quand même un avant et un après cette pièce. Ça a changé des choses. On va en parler dans un instant, Franck, si tu le veux bien. On va faire une pause musicale et on revient tout de suite après.
À plaisir.
Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pas pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche le rire, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord à chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu cherches à comprendre le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à savoir ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive. Et peut-être qu'à ça, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille nous saurons la trouver. Viens, viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.
On vient d'entendre Fred Pellerin qui nous chantait « Amène-toi chez nous ». Alors, Franck Sylvestre, on continue. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait un avant et un après cette pièce. Il y a eu un bouleversement en toi aussi, à travers tout ça. Mais je crois savoir que, est-ce que tu n'as pas, maintenant que tu en fais la proposition et que tu vas le monter, tu n'as pas réécrit certaines choses dessus aussi ?
Oui, bien sûr, mais j'ai fait ce texte, ce slam, cette espèce de vidéo-conte que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Alors oui, j'ai réécrit la pièce, l'histoire en fait, une pièce de 15 minutes, une pièce musicale de 15 minutes qui fait partie de mon spectacle qui s'appelle « À mon exil », qui est un spectacle de contes musicaux. Alors oui, j'ai réécrit à ma façon cette histoire. Alors j'ai trouvé j'ai inventé un passé, un départ à l'histoire qu'on ne connaît pas historiquement. Alors je suis parti de l'Afrique, oui. J'ai refait son trajet, je lui ai trouvé un nom parce qu'on ne connaît pas son nom africain, je l'ai appelé Ousmane Traoré.
D'accord, alors c'est un nom inventé, ok.
Oui, c'est un nom fictif, c'est ça, c'est le nom qui m'est venu. Plus tard, je me suis aperçu que c'était le nom d'un ami à moi. Mais...
Il va t'en vouloir.
Il va être content du cadeau.
Oui, ouais, je trouvais que c'est le nom qui m'est venu. Je trouvais peut-être que c'était un nom qui faisait très africain. Je pense que c'est dans le sens où c'est un nom qui fait post-colonial.
Oui, c'est vrai,
que ce soit la colonisation occidentale, la colonisation musulmane. C'est vraiment purement africain. Alors voilà, c'est peut-être pour ça. Ça reflétait un moment, un espace de liberté. Un homme libre là qui se fait avoir. Alors je pars de sa genèse, un chasseur qui tombe dans un piège, drôle pour un chasseur, en fait, oui. Qui tombe dans un piège creusé et voilà, et son périple commence.
Et c'est comme ça qu'il est emmené. Ah, dis donc. Alors dans cette sur scène, tu es entouré avec des musiciens, tu es accompagné de musiciens puisque il y a comme un environnement sonore tout au long de ça.
Oui,
et
exactement.
Ça parce que la musique fait partie de ta vie aussi.
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. La musique, c'est quelque chose au départ de mon trajet artistique, mais qui n'a pas été développé comme je l'aurais souhaité. Alors,
d'accord.
Alors la musique, elle est là. mais pour faire ce que j'entends dans ma tête, j'ai besoin de musiciens qui sont vraiment professionnels. Alors je collabore avec Guillaume Soucy qui compose beaucoup. Au piano, il y a Chantal Morin, une virtuose jazzman du piano. Guillaume, il joue de la bass et puis le setup électronique. On travaille beaucoup ensemble les musiques. Maintenant, il est de plus en plus autonome, Guillaume, parce qu'il a compris maintenant ce que je veux.
Oui.
On va faire du premier coup maintenant. Mais au début du projet, on a envoyé beaucoup d'aller-retour avec les maquettes. Oui, alors il m'accompagne. Et puis sur scène, donc il y a Guillaume et Chantal. Il y a aussi un environnement visuel. Des projections qui sont faites par Antoine Samor, le tout par une mise en scène de Jocelyn Pelletier, une chorégraphie parce que je danse aussi, de Carla Soto.
Oui.
Voilà, c'est toute l'équipe qui est avec moi. On a monté le projet en fait pour une tournée du Conseil des Arts de Montréal qui a été interrompue, qui a été covidisée. La tournée s'est...
Comme beaucoup d'autres choses, malheureusement.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'il y a des dates de reprise? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit sur Internet? Comment ça se passe?
La seule chose qu'on peut voir sur Internet pour l'instant, c'est les vidéos. C'est les vidéos, parce que j'en ai fait deux de ce spectacle-là. Alors, 1734 et une autre pièce qui s'appelle « Je devrais en faire autant ». Alors, ce sont les deux vidéos qu'on peut voir en attendant les prochaines dates qui sont au 24 septembre. On va en septembre, là.
Ah, ça laisse du temps pour aller te voir.
Pour aller voir les vidéos et les revoir et les partager.
Voilà, avec plaisir. Ouais. Avant que je te parle de l'école et des enfants, Fulgence a une question pour toi.
Oui, Franck Sylvestre, content de te réentendre, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas entendu non plus. Et en dehors de cette pièce 1734, est-ce que tu as d'autres projets qui... ou bien tu vas beaucoup plus pencher beaucoup du côté théâtre que, ou bien c'est tout un mélange conte, musique et théâtre qui va te servir de pilier maintenant.
Vaste question.
Non, vraiment, parce que je suis à ce moment où de réécriture, d'écriture de nouveaux matériels, et puis ça balance dans ma tête. Justement, je dois rédiger la demande de subvention, et puis là où on essaie de concevoir.
Bon courage.
j'aime ces moments d'écriture, justement, de subvention, où ça fait avancer dans le projet. Faire plus saleté, le concrétiser, mais là, la forme bouge, je ne sais plus trop où j'en suis. Musique, pas musique, parfois c'est quelque chose qui est très... Enfin, en fait, je développe en ce moment un triptyque sur l'œuvre de Patrick Chamoiseau. J'ai fait le premier volet qui s'appelait Le Fossoyeur.
En 2018, c'est ça?
Exactement, oui, c'est ça. En 2020, c'était l'envol
de Solibo. Oui.
Exact. Et le troisième, c'est La matière de l'absence.
Alors, c'est le titre qui me touche, qui me fait réagir le plus.
Ah, c'est vrai, mais c'est magnifique. Hein.
La matière de l'absence. Non, c'est vrai.
Oui, moi aussi.
Quand j'ai lu, je dis, qu'est-ce qu'il va vouloir dire là-bas? Qu'est-ce qu'il va vouloir nous raconter derrière ça?
Ah, mais ça, c'est la touche de Patrick Chamoiseau. C'est comme un très grand pour moi, et c'est le titre du livre où il parle du décès de sa mère.
Ah, d'accord.
Alors, on va vraiment... Là, on peut le comprendre, le titre, la matière de l'absence, ou quand l'absence devient tellement concrète qu'elle devient palpable,
oui.
L'absence envahit tout. On parle de la mort. Le troisième volet, c'est le volet où je prends moi-même mon envol quelque part par rapport à son œuvre. Je me suis très appuyé sur les deux premiers romans que j'ai adaptés. C'est vraiment l'adaptation pure de son écriture à ma parole. Et le troisième volet, je veux que ce soit le contraire. C'est que j'effleure son œuvre, mais c'est comme un tremplin pour aller dans ma parole. Je dis que le premier volet, c'était du Chamoiseau Franck, mais là, ça sera l'inverse, du Franck.
Franck Chamoiseau. Et là, ça va être fait donc pour l'automne en compte septembre, c'est ça aussi?
Ça va être un peu plus long, je pense. Ça va être un peu plus long, je vais prendre mon temps un peu plus. J'espère plutôt pour l'hiver prochain.
D'accord.
Ouais, ça, on va s'en aller. Je veux que ce soit un voyage dans l'au-delà, en fait. On va partir d'une pièce qui s'appelle Isa, qui est l'histoire d'une mère de famille qui meurt, qui meurt à reculons, qui s'accroche, qui ne veut pas mourir, mais qui finit par mourir. Et on va la suivre, qu'est-ce qui se passe après. On va la suivre.
Jusqu'au moment de son départ. Bah, écoute,
ça, on va la suivre au-delà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, pour moi, le défi, pour moi, c'est de faire ce voyage de l'autre côté.
Ah oui. Voilà. Ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu vas en faire, ce qui va passer dans ton cerveau pour faire ça aussi. Parce que c'est tout. Après, c'est ta vision du texte qui va être là et qui va nous plaire.
La pandémie ou sans pandémie, on a bien hâte de voir ça.
On a bien hâte de voir ça et que les théâtres réouvrent. On arrive à la fin de cette entrevue, Franck. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai hâte. Donc, ce qui est fait pour septembre, c'est 1734 qui doit repasser dans le théâtre.
Oui, c'est ça. Le spectacle s'appelle À mon exil. À mon exil. C'est ça qui reprend la route en septembre.
C'est ce qui reprend la route.
Et peut-être un petit peu l'été, j'espère. On va voir. Il y avait des propositions pour l'été, mais
on croise les doigts. Et pour toi, et pour nous. Alors, on te souhaite en tout cas une très belle continuation et puis vraiment bonne chance. Puis avec plaisir, on ira te voir dès que ce sera possible.
Oui. Bon vent. D'ici là, bon vent et puis bon beau projet et puis belle réalisation.
Ah oui, belle réalisation.
Merci,
à bientôt.
C'est au plaisir de te recroiser.
Voilà. Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, on part en musique avec Norah Jones qui nous chante The Sun Doesn't Like You.
The sun doesn't like you, you always get burned. Stay in the shade and watch the world turn. Better find a new place. Lay on the ground. You can't stay where you are, or you're gonna be found. And time won't pass you by now, won't tell you we can build a fire in the open field past the razor wire. Sneak by the dogs when they go to sleep and bring part of yourself that you let me. Cause time won't pass us by, won't tell you lies. Someday I will ask you why, but not now.
Très belle chanson.
Une
des préférées à Fulgence.
Oh oui, ça fait partie de ma pièce, de ma collection musicale personnelle. Non, c'est vrai, j'aime cette pièce-là.
Oui. Oh,
c'est...
Alors, entendre Franck Sylvestre m'a donné encore plus envie que les théâtres réouvrent. S'il vous plaît, rouvrez les théâtres. Rouvrez les théâtres.
De toutes les façons.
Rouvrez les théâtres. Ouais, allez, troisième fois.
J'aimerais pas être à la place des politiciens, en tout cas.
Alors, parce que quand même, ça manque aussi.
Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Oh, ouais.
Le talent direct.
Pas seulement les théâtres, mais les spectacles en salle.
Oui. Aussi.
Beaucoup d'artistes qui n'ont plus rien qui rentre.
En tout cas, on lui souhaite à Franck Sylvestre de faire cet été quelque chose déjà, ça sera bien. Et sinon, ben, on lui donne rendez-vous en septembre et puis voire même en octobre après.
Et ils n'ont qu'à essayer de faire des choses sur le web comme beaucoup de gens le font maintenant. Marie faire Daniel... payer des billets et puis les gens, voilà.
Marie-Danielle
Boucher.
Marie-Danielle Boucher nous a donné, je sais, je te laissais finir. Voilà. Nous a donné aussi beaucoup d'explications, merci.
Voilà le site là, Simplyk, S-I-M-P-L-Y-K.
Voilà.
Faut pas dire le contraire.
Merci
à vous tous
de nous avoir suivis. Maurice Bolduc, merci pour les musiques.
Et n'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent dès aujourd'hui, du mardi au samedi, 5h du matin, nous sommes l'émission est rediffusée.
On se voit demain. Peut-être. À demain.
Peut-être, oui.